merci à Benoît pour remercier évidemment Futur Composé, ses cadres dirigeants, son président, son vice-président, et Laurence Dune qui a organisé, donc chargé de mission, ces rencontres. Merci infiniment à Flaget qui nous accueille et à son directeur Gilles Ledur. Merci à nos invités et évidemment à Musique Nouvelle. On aura l'occasion d'accueillir Jean-Paul Dessis, le directeur artistique, dans la prochaine table ronde. Alors, nous avons donc, comme le disait Benoît, décidé de diviser hein, en quelque sorte les discussions. Une toute première discussion qui devra réfléchir sur le rôle, la place, la fonction de différents types de réseaux. Et je présenterai tout de suite les personnes qui sont à mes côtés. Et évidemment, la discussion sera tout à fait ouverte à vos interventions, questionnements, participations, contributions. Et puis on rentrera ensuite, dans le cadre d'une seconde table ronde, dans une problématisation un petit peu de la manière avec laquelle les artistes et celles et ceux qui les accompagnent, tutelles, fédérations, syndicats, etc., envisagent eux également l'évolution du contexte, les mutations en cours et la manière avec laquelle ils ou elles y réagissent. Ce que je vous propose juste en tout premier lieu, c'est de dédier, je crois que je n'ai pas trouvé un autre verbe, notre après-midi à la mémoire de Jonathan Harvey, qui a disparu il y a quelques heures. Et voilà, nous avons tous peu ou prou connu, nous avons tous pu apprécier l'immense humanité, l'immense talent artistique qui nous a donné beaucoup. Voilà. On va essayer d'être à sa hauteur. Alors, commençons. Ladies first, à ma gauche, Anne Decker, qui est déléguée générale, ou qui anime le réseau ULIS, qu'elle va nous présenter tout de suite. Fabien Biclet de European Music Office, le Bureau européen de la musique, basé à Bruxelles, c'est bien cela, qui nous présentera également, avec, je crois savoir, une vision qui transcendra en quelque sorte le genre de la musique de création pour aller vers d'autres pratiques musicales. Et puis on ira à ma droite dans d'autres pratiques artistiques, incluant la musique, avec Michel Quéré du réseau IEPM. Donc des réseaux aussi qui ont une historicité très variée, et qu'on complétera peut-être par une vision plus globale d'autres types de réseaux, évidemment Futur Composé en est un et ô combien. Alors ce que je vous propose, c'est d'articuler un peu notre réflexion en deux, trois grands moments, et le tout premier, ce serait de bien comprendre l'objet de vos réseaux respectifs, leur périmètre d'action, et peut-être une rapide carte d'identité sur leur histoire. Alors on commence peut-être par toi, Anne.
Oui, bonjour. Donc, je travaille à l'IRCAM, qui est le coordinateur de ce nouveau réseau qui s'appelle Ulysses, qui est né disons que les préparations de ce projet ont commencé en 2010 déjà, en fait, avec une rencontre qui avait réuni 25 acteurs européens dans le domaine de la professionnalisation en fait, des compositeurs. Déjà pour échanger, pour définir aussi les besoins aujourd'hui de ces différentes institutions qui peuvent être aussi bien des institutions d'enseignement supérieur que des institutions de diffusion comme des festivals, ou aussi des ensembles justement qui organisent aussi des concours pour des jeunes compositeurs, des résidences qui font des commandes, donc qui sont tous eux aussi investis dans la professionnalisation. Et donc on est parti du constat que en fait déjà il y a une connaissance assez limitée au niveau européen, malheureusement même, des scènes artistiques émergentes des différents pays. C'est-à-dire qu'en Allemagne, on va parler d'un certain nombre de jeunes compositeurs montants, alors qu'en France, on ne va pas du tout connaître leur nom. Donc en fait, ces compositeurs sont souvent limités aussi dans leur rayonnement. Ils ont un public très limité, ils ont du coup aussi une très petite possibilité de trouver des ensembles qui veulent bien intégrer leurs œuvres dans leur répertoire, de trouver notamment des nouvelles commanditeurs, etc. Et aussi, surtout, en fait, il y a une Grande Énergie, aussi des moyens certains qui sont investis quand même à chaque fois qu'on reçoit des compositeurs en résidence, ou aussi pendant les académies d'été par exemple, où des nouvelles œuvres sont créées, mais ces nouvelles œuvres-là ne trouvent pas leur public, parce que ces œuvres-là ne circulent pas du tout ensuite dans l'Europe, dans les différentes institutions qui, au départ, pourraient être intéressées par ces œuvres-là. Donc voilà, on est parti de ce constat-là, on s'est dit bon, ça serait bien déjà qu'on se mette ensemble en réseau pour mieux échanger sur les scènes émergentes qui existent dans les différents pays, se faire connaître, ou faire connaître les noms de jeunes compositeurs au-delà des frontières nationales, et aussi surtout permettre aux œuvres de ces jeunes compositeurs de rencontrer des publics beaucoup plus larges. Voilà, donc c'était un peu ça notre constat du départ.
Est-ce que tu peux nous dire, juste pour compléter, quelles sont les institutions qui participent à cet effort de fluidification un peu des répertoires
Oui, donc comme je le disais, donc on a en partie donc des institutions qui sont des institutions d'enseignement supérieur, donc ça peut être surtout des académies d'été, par exemple, qui peuvent être reliées parfois à des conservatoires. On a deux ensembles qui, eux, ont soit une académie d'interprètes ou aussi qui accueillent des jeunes compositeurs en résidence pour des nouvelles créations. On a des festivals. Donc c'est des institutions assez variées, et c'était ça aussi qui nous intéressait dans cette constitution de réseau, c'est que chacun avait des particularités, des expériences différentes, et on avait envie de les mettre ensemble, ou de mettre ces expériences-là, ces compétences en commun.
Et l'expérience a commencé donc il y a quelques mois.
Voilà, donc on a commencé en 2010 donc à se rencontrer, à établir donc un état des lieux déjà. Et on a quand même réuni en fait les différents membres du réseau 5 ou 6 fois avant de déposer déjà une candidature à l'Union européenne donc en 2011. Et donc ce projet a été accepté par l'Union européenne et l'aventure réelle a commencé au mois de mai 2011 avec donc 14 institutions européennes de 11 pays de l'Union européenne. Et c'est un projet sur 4 ans donc qui va se terminer en avril 2016. Mais on espère bien évidemment que l'aventure va aller beaucoup plus loin et que les partenaires qui aujourd'hui sont en 14 vont rayonner sur un domaine professionnel qui, je pense, réunit bien plus que ces 14 partenaires pour durer au-delà.
Toute dernière question d'approfondissement de cette présentation, merci infiniment. Est-ce qu'il y a eu des modèles? Est-ce que vous avez pu construire sur une initiative qui avait déjà pu être née les dernières années? Est-ce qu'il y a eu un modèle que vous avez essayé de translater? Est-ce que vous avez utilisé un réseau peut-être pour vous aider également à la candidature vis-à-vis de l'Union européenne?
Il y avait certainement un modèle qui était le réseau Varese, un réseau de diffusion plutôt. Donc c'est vrai que comme nous, notre idée c'était aussi donc de permettre aux nouvelles œuvres de jeunes compositeurs de trouver des publics plus variés dans différents pays européens, forcément c'était un modèle de base. Après nous, comme on voulait vraiment se positionner sur la jeune création, on s'est orienté après vers d'autres membres potentiels. On a réuni d'autres institutions dans ce réseau-là. Mais c'est vrai que c'était pour nous un modèle aussi dans la longévité, en fait, puisque ce réseau Varese, aujourd'hui, il a été monté comme le réseau Ulysse, au départ comme un réseau qui devait durer 5 ans, mais ça s'est renouvelé plusieurs fois, et ça s'inscrit vraiment dans la durée, et ça permet aujourd'hui de... il y a des réelles coopérations qui sont maintenant inscrites dans la durée et qui ne sont plus... que dépendant du soutien européen.
D'accord. IMO, qu'est-ce qui se cache derrière cette acrostiche qui semble très, très générale
Tout à fait. Donc, c'est IMO, ça correspond à European Music Office, en français le Bureau européen de la musique, qui est une association européenne qui rassemble à l'heure actuelle 15 membres, 16 membres, qui a été créée en 1995 et qui est basée ici à Bruxelles. Dans les grandes lignes, la structure, déjà la structure des membres d'IMO dit beaucoup sur la mission et sur les missions de cette organisation. Donc, c'est une association qui rassemble à la fois des bureaux export de musique, type Burex français, mais aussi des centres d'information et de documentation de musique, donc, on partage d'ailleurs peut-être des membres avec IETM ou avec le YAMIC qui doit être dans la salle. Et également des sociétés de collecte de droits d'auteur ou de gestion de droits d'auteur. Donc c'est un panorama de membres assez divers. Et les missions de cette organisation reflètent bien cette diversité, puisqu'on fait à la fois du plaidoyer qui est des actions politiques à l'échelle européenne, donc auprès des institutions de l'Union européenne, pour défendre les intérêts du secteur de la musique en général. Donc contrairement à des associations comme l'IFPI ou l'IMPALA ou le GESAC, qui sont des... Oui, pardon. Donc oui, tout à fait, l'IFPI, c'est donc les majors, en fait, les grands labels européens qui sont rassemblés ici dans une organisation à Bruxelles pour défendre des intérêts spécifiques.
Donc de l'édition phonographique.
Exactement.
Notamment classique.
Et l'édition phonographique, exactement.
Impala.
Impala, qui représente les labels dits indépendants. Et c'est une association internationale et dont le siège est également à Bruxelles. Le GESAC, qui s'occupe de représenter plutôt les sociétés de collecte de droits d'auteur, purement les sociétés de collecte de droits d'auteur. Donc nous, IMO, on est un réseau protéiforme, entre guillemets, qui représente une série d'intérêts. Parfois un peu divergent, mais qui se retrouve systématiquement sur la défense de la musique en Europe, de la circulation des répertoires, de la mobilité des artistes, des droits des musiciens et des opérateurs du monde de la musique.
Dites-nous un mot, peut-être en 95, quels ont été les membres initiateurs, quels sont ceux qui se sont mis les premiers autour de la table?
C'est une association qui a été créée à l'initiative de Jean-François Michel, qui était donc son fondateur et son secrétaire général, qui malheureusement nous a quittés l'année dernière, et qui avait rassemblé au départ plutôt des sociétés de collecte de droits d'auteur et aussi d'autres structures, notamment en France, comme le CNV, donc le Centre National de Variété, ou le Fonds pour la Création Musicale, et l'équivalent de ces structures dans d'autres pays européens. Mais au départ, c'était limité à, alors si ma mémoire est bonne, donc les trois pays, dans deux pays scandinaves, donc la Suède et la Finlande, étaient fondateurs, l'Allemagne était fondateur avec la GEMA, et il y avait aussi la fondation Arezzo Wave en Italie, donc c'est un membre un peu différent, puisque c'est une fondation qui s'occupe de gérer un festival, et aussi la SIA, donc la Société de droits d'auteur italienne.
Espagnole. Ah non, la SIA, pardon. Ouais. Italienne. Et est-ce que 17 ans plus tard, on retrouve les mêmes dans le cœur d'influence du réseau? Est-ce qu'on retrouve les mêmes que les initiateurs?
C'est une très bonne question, parce que ça a énormément évolué, en fait, dans la structure des membres et dans le rôle des membres. Ça a beaucoup évolué avec le temps. Au départ, c'était un peu un attelage. C'était une première expérience aussi, hein, d'avoir une organisation qui s'occupe de toutes les problématiques liées à la musique en Europe. Mais les sociétés de collecte de droits d'auteur étaient les principaux membres au départ. Ça a progressivement évolué avec l'évolution du paysage musical en Europe et notamment l'émergence des bureaux export de musique qui, derrière l'exemple français, se sont développés considérablement ces 10-15 dernières années. Donc maintenant, il y en a dans 8 ou 10 pays européens, peut-être une petite dizaine de pays européens. Alors, les citer tous de tête,
Mais les principaux pays de l'Union européenne,
voilà,
plus quelques pays qui sont donnés pour objectif
tout à fait
de renforcer leur présence internationale de soft power.
Exactement. Donc ça, maintenant, les bureaux export, c'est les associations, les organisations en tout cas, qui ont le plus d'influence dans ce réseau et dans cette association, et qui déterminent l'agenda, on va dire.
On reviendra vers vous pour examiner en tout cas les différentes réactions des différents types de musique et des différents territoires face à un contexte qui a l'air quand même relativement unifié en Europe, en tout cas le contexte économico-social. IETM, donc, est, je crois, l'aîné de tous ces réseaux, créé en 1981, c'est ça si je ne m'abuse, plus de 30 ans, à peu près la même question, quel est l'objet exact ? Le périmètre, je crois que vous avez 800 membres. Ah bon, un peu moins, pardon. C'est ce que dit votre site internet. Bon, pardon. Alors, je dis n'importe quoi. Ils sont sans alors précisez.
Oui, je crois qu'on n'est pas les. Enfin, IETM n'est pas le réseau le plus ancien. Je pense que l'un des plus anciens est l'IFA, c'est European Festival Association, qui est également basé ici en Belgique, non pas à Bruxelles, mais à Gand. Et puis un peu en Belgique, en fait, ils ont une antenne ici également. IETM, ça voulait dire à l'origine. Informal European Theatre Meeting. Ça voulait dire en 81, le côté informel, c'était pas seulement qu'on allait prendre des coups ensemble et qu'on faisait la fête, c'était surtout qu'on représentait que soi-même, on représentait que son propre travail, on n'était pas là avec son petit drapeau national, où il n'y avait pas d'antenne nationale. Et il n'y a toujours pas d'antenne nationale. Ce sont des individus, enfin en tout cas des projets artistiques, qui sont réunis. Donc ça a démarré en 81 en effet à Polverici en Italie, dans un festival qui était dirigé par Roberto Cimetta. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Roberto Cimetta qui maintenant est un peu connu parce qu'il a un fonds qui a été créé par l'IETM il y a quelques années, qui est maintenant indépendant, qui facilite les échanges artistiques entre l'Europe et la Méditerranée. Ça a démarré avec 5 ou 6 personnes, il y a à peu près une cinquantaine de personnes actuellement prétendant être ces 5 ou 6 personnes en question. Oui, c'est plutôt pas mal, ils n'ont pas honte.
Ce n'est pas le cas de toutes les grandes organisations.
Ça a été très très vite, ça a grandi. Il y a eu une première réunion qui a été faite à Paris, même ça, je ne sais pas à l'époque, donc je ne me souviens pas. Et aujourd'hui, on a 550 membres dans 50 pays différents. Alors, nos membres, ce sont des théâtres, des festivals, des compagnies de théâtre et de danse, des producteurs indépendants, mais également aujourd'hui également des institutions du style de l'Institut français, le British Council, le PMSA, etc. Les enjeux et la volonté restent toujours la même, c'est faciliter les échanges internationaux, essayer de se comprendre, essayer de potentiellement travailler ensemble. Et on fait ça à travers des activités qui consistent en des réunions, un petit peu comme celles que vous organisez aujourd'hui, qui réunissent là entre 400 et 700 personnes. À chaque fois dans un pays différent, une grande réunion au printemps, une autre à l'automne, dans une ville différente, dans un contexte différent, essayer de comprendre un petit peu quels sont les enjeux au niveau local et comment les gens peuvent, les participants peuvent obtenir des contacts, apprendre des choses et faciliter donc au maximum des échanges.
Très bien. Alors, on va venir à vos périmètres d'intervention respectifs. Peut-être un mot, on voit tout de suite qu'il y a une grande polysémie du mot réseau. Ce n'est pas une nouveauté, on ne vient pas le découvrir le 6 décembre après-midi, mais il y a donc des réseaux qui sont sanctuarisés, pérennes en grande partie, qui impliquent des engagements également de personnel permanent. Et qui, donc en dur en quelque sorte, hein, et qui ont différentes missions. Vous avez parlé déjà de fluidification des répertoires, on a parlé d'échange d'expériences, on a des espèces de macro-structures comme l'IMO qui regroupe elle-même des structures nationales ayant des objets peu ou prou identiques, mais étant actifs de façon un peu segmentée sur les territoires. Et en même temps, la notion de réseau implique aussi quelque chose de beaucoup plus immatériel, qui est tout simplement la capacité, enfin la facilitation de se retrouver et de ne pas avoir à chaque fois à, investir des coûts de transaction pour refaire connaissance. Voilà. Alors, vos périmètres d'intervention, donc, vous écoutez, on l'air à la fois très quantitatif, avec, vous allez nous en parler très précisément, peut-être en commençant par Anne, avec donc un apport, en quelque sorte une courroie de transmission entre que l'Union européenne a pu apporter et la manière avec laquelle s'est ventilé sur les différents projets, donc un apport en monnaie sonnante et trébuchante, et en même temps quelque chose qui est plutôt qualitatif, qui est un apport d'expertise, une capacité à rendre, à informer l'ensemble des membres de différents types d'expériences, plus ou moins concluantes. Alors, deux questions. Quels sont vos périmètres exacts d'intervention, à la fois sur ces deux domaines quantitatifs et qualitatifs, et quelles sont les modalités que vous avez pu d'ores et déjà mettre en œuvre pour les réseaux qui ont déjà une existence dans l'histoire, ou que vous avez prévu de mettre en œuvre pour pouvoir estimer l'impact de vos interventions. On recommence par Anne, peut-être. Donc c'est une expérience de 8 mois.
Ça. Oui, bon, après avec quand même l'expérience des rencontres préparatoires qui sont un peu plus vieilles, heureusement. Oui, alors j'ai plutôt envie de commencer par le côté qualitatif, parce que je pense que c'est ça qui nous a quand même animés et aussi motivés à nous mettre en réseau. C'est donc voilà, déjà le fait de mieux se connaître à un niveau européen, de pouvoir aussi monter des coproductions, de pouvoir trouver donc déjà des publics diversifiés, aussi des créations artistiques plus diversifiées, parce qu'on a envie de dépasser aussi le genre de la musique contemporaine pour aller aussi dans l'interdisciplinarité, etc. Donc de croiser aussi des compétences qui peuvent être très, très variées. Par exemple, à Darmstadt en Allemagne, on a vraiment ce volet de la musique électronique, alors que en Lettonie, on va avoir plutôt la musique vocale, etc. Donc de croiser aussi un petit peu ces disciplines-là.
Quand tu parles de coproduction, tu parles de coproduction d'initiative de formation, où ça va jusqu'à la production du spectacle, enfin, ou de la performance musicale et ou artistique.
Il y a de tout.
De tout, c'est-à-dire que vous ne vous privez pas d'aller jusqu'au produit fini.
Non, pas du tout. Bah, déjà, les académies, en fait, quelque part, elles aboutissent à des produits finis. Mais l'idée, c'est aussi qu'on se recommande des compositeurs, on se recommande aussi des ensembles, parce qu'on a des ensembles qui sont dans notre réseau, et que en fait, de ces expériences-là qui peuvent être rendues possibles parce qu'on a un soutien européen qui permet justement de financer des déplacements d'un ensemble italien vers la Lettonie, peuvent naître d'autres collaborations artistiques qui ensuite tiennent debout sans que l'Europe intervienne.
Quelles sont les procédures qui ont été mises en place? Est-ce qu'il y a, des informations régulières, des points d'étape, une périodicité, sur le plan purement qualitatif, pour continuer là-dessus? Qu'est-ce que dans les 8 derniers mois, vous avez déjà pu mettre en place? Qu'est-ce que vous aviez anticipé, prévu, et qui s'est révélé finalement à devoir transformer quelque peu?
Ce qui s'est mis en place, c'est surtout l'échange de compositeurs, c'est-à-dire qu'il y a différentes académies d'été dans différents pays, qui ont chacun leur procédure de sélection de jeunes compositeurs, mais qui peuvent ensuite s'envoyer les compositeurs sélectionnés. C'est-à-dire que les compositeurs qui ont été sélectionnés en Allemagne et aux Pays-Bas vont ensuite être aussi intégrés dans des concerts en France ou en Italie. Donc c'est déjà créer un circuit un petit peu comme ça. Donc déjà un échange d'expertise. Après, il y a aussi un échange au niveau des compétences. Il y a par exemple, donc, comme je disais, des ensembles italiens qui vont se déplacer en Lettonie, participer à des académies d'été là-bas. Mais il y a aussi, par exemple, nous, on va inviter à l'IRCAM, donc, où on a aussi cette expertise des nouvelles technologies, on va inviter et des ensembles allemands et des jeunes compositeurs allemands pour leur permettre d'expérimenter ces nouvelles technologies en France.
Une sorte d'initiative qui n'aurait pas eu lieu sans Ulysse, ou qui sont valorisés, ou qui reçoivent un contexte plus favorable grâce à lui.
Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, les compositeurs sont quand même assez mobiles, mais de façon très individuelle, et que sans que ça ait un impact ni sur les professionnels, ni sur le public. Du coup, à partir du moment où on arrive à justement organiser ça dans un réseau qui permet aussi de communiquer autrement, d'accéder ou d'inviter des professionnels dans une autre mesure, ça permet d'avoir éventuellement des répercussions à plus long terme. Et aussi, bien sûr, c'est pas forcément toujours évident de déplacer donc, des ensembles, une vingtaine de personnes au niveau européen. Souvent, les festivals n'ont pas les moyens d'inviter toujours des, voilà, des ensembles d'autres pays, des artistes d'autres pays. Donc c'est vrai que les soutiens européens permettent aussi une plus grande facilité et de faire travailler des jeunes compositeurs dans des conditions professionnelles.
Alors sur le plan quantitatif, qu'est-ce qu'apporte UNIS à un participant, à un membre du réseau?
Alors pour ça, il faut comprendre comment ça a été monté. En fait, c'est vrai que comme la Commission européenne demande quand même des budgets extrêmement précis, avec une quantification justement sur la durée totale du projet. Donc pour nous, il fallait qu'on prévoie jusqu'en avril 2016 ce qu'on allait dépenser sur quel projet. Ça va jusqu'au nombre de voyages voilà, par mois et de quelle ville à quelle ville, de quel pays à quel pays. Donc nous, on est quand même parti sur des projets extrêmement précis. Donc on s'est dit, c'est pour ça aussi que c'était nécessaire qu'on se réunit autant de fois en amont pour établir un programme de travail extrêmement précis sur 4 ans. Et donc, en fait, ce que rapporte l'Union européenne, c'est surtout donc, vraiment l'aide aux projets précis, des projets qui ont toujours été imaginés donc, en commun avec les partenaires, c'est-à-dire un projet ULIS, on pouvait recevoir le label ULIS et le soutien ULIS et de l'Union européenne seulement s'il y avait cette dimension européenne. Donc, s'il y avait plusieurs reprises dans différents pays européens, s'il y avait la collaboration de plusieurs partenaires du réseau. Donc voilà, c'est une vraie aide au projet. Ensuite, il y a un deuxième volet qui pour nous est très important, c'est donc la communication, c'est l'échange. Donc nous, on a développé un outil internet qui est beaucoup plus qu'un simple site. C'est un outil qui doit devenir une vraie base de données de la jeune création en Europe, parce que c'est un outil qui permet à toutes ces académies d'organiser leur comité de lecture, c'est-à-dire les processus de sélection quand il y a des concours. Que ce soit pour des compositeurs, pour des interprètes, etc. Donc pour tous les...
Et l'uniformisation, là, une espèce de règlement intérieur.
Non, ce n'est pas du tout une uniformisation parce que cet outil est adapté à chaque cas. Donc en fait, chaque utilisateur de cet outil, donc chaque académie, chaque lieu de résidence, etc., qui a besoin, à un moment ou à un autre, de faire appel à un jury pour voilà, traiter des candidatures de jeunes artistes, peut développer son propre interface, mais c'est un lieu en ligne, c'est-à-dire les candidats vont déposer leur candidature en ligne. Ça permet que les données sont rassemblées à un endroit et qu'ils peuvent du coup aussi être partagées par un grand nombre de professionnels. Ça veut dire que ça permet aux personnes qui se trouvent en Finlande et qui ne peuvent pas venir écouter tel ou tel concert qui a lieu en France, comme d'avoir accès ensuite à une base de données avec des enregistrements, etc. Donc c'est aussi ça s'adresse donc aussi à un cercle de professionnels de la musique contemporaine, que ce soit des directeurs artistiques, des producteurs, etc., des éditeurs.
C'est plus ouvert que le réseau lui-même. Et si je comprends bien, ULIS, c'est un petit peu de plateforme incitative qui polarise les projets de ses membres vers la rencontre inter-européenne des artistes. Voilà. Mais ça n'est pas un apport, je dirais, automatique qui transite par la fonction centrale que tu occupes et qui tout simplement fait une espèce d'effet d'aubaine, comme on dirait, l'économie, c'est-à-dire Darmstadt, Inipo, IRCAM, Flagel ont toujours accueilli des compositeurs de l'Union européenne. Et bon, c'est une manne supplémentaire qui viendrait. Vous servez véritablement d'aide ponctuelle à des projets qui sont redéfinis en fonction des objectifs que vous. Et est-ce que vous êtes, dans ce cadre-là, donné des objectifs chiffrés? C'est-à-dire, est-ce que en 2016, vous allez vouloir évaluer le nombre de compositeurs venant d'autres pays européens chez un opérateur membre du LIS? Est-ce que vous avez voulu calculer des ratios, le nombre d'œuvres, par exemple, présentées, la durée de vie des œuvres? Est-ce qu'il doit être deux fois plus long, trois fois plus long, le nombre de représentations des œuvres qui auront pu naître grâce au réseau? Est-ce qu'il y a comme ça une espèce de patrie d'indicateurs que vous souhaitez, que vous vous donnez comme objectif, comme horizon d'attente?
Non, à vrai dire, moi personnellement, je ne quantifierais pas les résultats de l'ULIS de cette façon-là, parce que voilà, ce qui compte après, c'est en fait, qu'on arrive à monter des relations durables, des coopérations durables, qui ne sont pas uniquement fondées sur un soutien financier, mais qu'on provoque des nouvelles rencontres aussi artistiques et que ces rencontres-là, en fait, que ça fasse un peu un effet de boule de neige. En fait, c'est ça l'idée, c'est qu'effectivement, au départ, on a une incitation financière, certes, par le soutien européen, et que du coup parfois ça peut avoir l'air d'être un peu des mariages forcés aussi, parce que voilà, on se retrouve dans un réseau et du coup forcément on monte des projets ensemble, mais ça demande aussi un vrai effort, mais qui peut devenir une réelle chance, je pense, parce qu'on élargit son public, on élargit ses capacités de communication auprès du public professionnel qui du coup est européen et plus que national. Et on espère, bon là ça fait 6 mois qu'on opère, et on a déjà réalisé pas mal de projets, on espère qu'après ça, justement, ça dynamise toute la scène artistique à un niveau européen.
Créer des nouvelles habitudes. Pour IMO, c'est 17 ans d'expérience. Alors comment ça se matérialise? Quels sont là aussi vos périmètres d'intervention vis-à-vis de vos différents membres? Et est-ce qu'il y a des expériences qui ont été plus concluantes que d'autres? Est-ce qu'il y a eu aussi une uniformisation ou des feuilles de route partagées entre les différents bureaux de représentation de musique à l'export, etc.? Est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus?
Donc, comme je le disais rapidement tout à l'heure, la diversité des membres du réseau qui constitue cette association a pour conséquence la diversité aussi des actions qu'on met en place, nous. Alors, c'est vrai que selon les périodes, selon les époques et selon les agendas politiques, à la fois dans les États membres et à l'échelle européenne, ces missions vont évoluer. Mais aujourd'hui, on peut en identifier 3. Et ces 3 missions, peu ou prou, ont toujours été les missions d'IMO. C'est des missions qui ont jamais vraiment varié. La première, c'est évidemment l'activité de plaidoyer politique, que ce soit au niveau des États membres de l'Union européenne, ou au niveau de l'Union européenne en soi, donc à Bruxelles. Alors ça peut être la promotion de la création d'un bureau export dans un pays qui n'en a pas, donc par une activité de plaidoyer pour ça dans un pays de l'Union européenne. Ça peut aussi être, quand on se situe à l'échelon européen, ça peut être la défense des intérêts des musiciens, alors des tas de façons possibles. Hein. On est actif à beaucoup, beaucoup de niveaux politiques. Prendre des sujets, par exemple, comme la TVA sur les produits musicaux. On peut prendre des sujets comme une norme sanitaire sur un festival.
L'uniformisation de taxation.
Exactement. La licence pan-européenne. Bon, c'est tout un tas de sujets sur lesquels on est actif en termes de lobbying, hein, comme on dit ici. Mais aussi et surtout sur la défense du secteur musical dans son ensemble, dans l'attribution de fonds publics européens. Donc ça, on le fait beaucoup. Là, en ce moment, on est en train on est très actif sur un sujet dont on parle beaucoup, c'est les perspectives financières de l'Union européenne pour 2014-2020. Ces perspectives financières vont redéfinir l'enveloppe allouée à la culture par l'Union européenne. Et notre travail, c'est aussi de faire en sorte que la musique soit bien représentée dans cette enveloppe financière. Alors, cette enveloppe financière, je peux en parler un peu plus précisément maintenant, puisque ça correspond à la deuxième mission que je voulais décrire, qui est de participer, de coordonner ou d'aider à des projets financés par l'Union européenne la plupart du temps. Ça, on le fait beaucoup. On le fait pour nos membres qui sont impliqués, les bureaux export sont impliqués dans un certain nombre de projets européens. Et on le fait aussi pour d'autres organisations avec qui on collabore ponctuellement, notamment avec l'IRCAM sur le projet ULIS. On a travaillé ensemble sur leur dossier.
On a une forme d'ingénierie.
Tout à fait, c'est ça. Un travail de conseil à la fois sur le texte en soi, de la proposition, enfin du dossier qu'ils ont soumis à l'agence.
Il fallait être membre pour cela, ou c'est par la SACEM que ça s'est passé, ou comment ça a été?
Oui, ça s'est passé via la SACEM en effet. Et comme c'est une organisation proche, ça s'est fait par le truchement de la SACEM, et aussi parce que IMO a vocation à aider. Quelle que soit l'initiative, et membre ou non du réseau, a vocation à aider des projets, des initiatives qui servent la cause qu'on défend. Parce que ce n'est pas uniquement une question de membership et de prendre un ticket, c'est aussi une question de cause en général. Donc ça, on le fait beaucoup, le plaidoyer politique, les projets, et on fait aussi des études. Donc là, c'est plutôt le rôle de point central, de point de focalisation pour nos membres sur l'information et sur une sorte de centralisation des informations. Donc nous, on essaye de faire, soit on les commande, soit on les fait nous-mêmes, des études qui permettent à nos membres d'en savoir plus sur le marché ou sur l'état de la circulation de la musique en Europe, par exemple, et aussi qui nous servent, nous, dans notre travail politique, parce que ce qui est important, et je pense que ça existe à tous les échelons politiques européens, nationaux, régionaux, les pouvoirs publics sont souvent demandeurs d'informations. Quand nous, on essaye de défendre un point de vue pour le secteur de la musique, souvent la réponse des pouvoirs publics, ça va être de dire « Oui, mais vous dites qu'il faut, par exemple, plus de soutien législatif. »
Quelles sont vos sources ?
Où sont les chiffres ? Donc voilà, notre boulot, c'est aussi de produire ces chiffres qui ne sont pas spontanément produits et qui ne sortent pas de boîte, malheureusement. Donc ça, c'est l'une des missions importantes aussi de
Monk. Bon, on voit bien le gagnant-gagnant pour les membres du LIS, je parle de fait de même potentiel. Par contre, chez vous, si tous les grands États de l'Union européenne ont des bureaux export très très performants, ça risque un petit peu de tuiler, ils risquent de se marcher sur leur propre plate-bande. Comment vous gérez ça en interne? Des questions subsidiaires, quelle est votre source de financement? Est-ce que ce sont que des memberships, ou est-ce que l'Union européenne participe, les États, les sociétés locales? Enfin, dites-moi un petit peu comment vous êtes financé.
Sur la question des clashs potentiels entre les membres, évidemment, hein, ça peut arriver parce que c'est aussi des acteurs qui sont compétitifs sur des marchés.
Sur les mêmes marchés.
Sur les marchés.
Sur les marchés européens, voire l'Amérique du Nord, l'Asie, l'Océanie.
Cela dit, ils trouvent quand même un intérêt à travailler ensemble, à la fois au niveau politique, parce que les règles qui sont définies à l'échelle européenne, c'est les mêmes pour tous, quels que soient les enjeux nationaux ou les compétitions entre la France et l'Allemagne, la Norvège et la Finlande. Enfin, vous voyez, c'est...
Des bons exemples.
Ils trouvent toujours un intérêt à travailler ensemble pour que, à l'échelle de l'Union européenne, et donc du marché commun, hein, ça soit bénéfique pour tout le monde.
1 plus 1 égale 3.
Tout à fait.
Et comme le gérer au quotidien. Vous n'avez pas une bonne petite anecdote, là? Non, il n'y a pas eu un moment où vous avez dû trancher ou...
Non, bah, il y a parfois des moments de flottement parce que c'est des structurations à géométrie variable. Là, on prend l'exemple des bureaux export, c'est intéressant. La France a été donc le premier, le pionnier à mettre en place cette
structure. Grâce à l'ANCM et le ministère.
Tout à fait. Et il y a d'autres pays qui ont emboîté le pas, parfois en suivant exactement le même modèle, donc les mêmes modes de financement avec plusieurs têtes, donc l'industrie qui finance. Ça, c'est qui finance les pouvoirs publics directement qui financent, et parfois ils ont opté pour des modèles complètement différents. Par exemple, la structure Wallonie-Bruxelles Musique, qui n'est pas en soi un bureau export, mais qui fait beaucoup d'activités d'export, qui est présent sur beaucoup de marchés, beaucoup de salons. Donc la structure correspondant ici, ils sont d'ailleurs dans ces locaux. Eux sont financés quasi exclusivement par l'État.
Attendez. Non. Région.
Par la région, c'est ça.
Et la ville de Bruxelles, la ville région. Oui, parce que je suis...
J'ai dit l'État, mais c'est quand on dit l'État en Belgique, c'est...
Ah, pardon. Alors que vous fassiez un petit point
région,
de
Bruxelles. Par le champ administratif concerné, donc la région. Oh là là, pardon.
Communauté.
Je crois que je vais vous laisser...
On a compris.
Mais voilà.
On va le dire.
Il y a parfois des dialogues... Un peu intéressant sur le voilà sur
et la SABAM peut pas se sectionner entre les Wallons, les Flamands, les Bruxellois.
Exactement, sachant que la SABAM est également membre de notre réseau. Donc c'est vrai qu'il y a souvent des discussions sur la nature, la structure de nos membres, leurs objectifs directs et leurs missions directes, mais au bout du compte, ils se retrouvent à la fois sur des valeurs, la défense de la circulation et des répertoires et des artistes, et donc l'émergence souhaitée d'un marché européen de la musique, que ce soit pour le live ou pour l'enregistré. Oui, vous posez aussi la question du financement.
Mais alors, savoir si l'Union européenne était à la fois jugée partie ou...
Donc,
si elle était dans vos organes de gouvernance et dans vos financeurs.
En fait, il y a plusieurs façons de fonctionner avec l'Union européenne. Mais donc, l'essentiel de le financement, c'est évidemment les contributions annuelles des membres. Après, si on est impliqué ponctuellement dans un projet européen financé par l'Union européenne, le programme culture de l'Union européenne, ce financement, on va l'inclure nous dans notre budget, et on va être financé via ce mécanisme-là. Si on n'est pas impliqué dans un projet, on a droit en tant que réseau européen à déposer un dossier de candidature pour ce qu'on appelle une subvention de fonctionnement, qui aussi est une des lignes
budgétaires du programme culture.
Et donc ça, c'est un soutien financier annuel, qui peut être annuel. Comme on préfère être flexible, quand on le prend, ce soutien, on le fait de manière annuelle. Et donc, c'est vrai que ça limite un peu la liberté d'action quand on veut être un acteur politique et parler français avec l'Union européenne. Cela dit, c'est quand même traditionnellement, un certain nombre de réseaux européens impliqués dans la culture sont financés aussi par ce biais-là. Donc, c'est quelque chose qui se fait, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, c'est vraiment quelque chose qui est en place depuis assez longtemps à l'échelle européenne. Et il faut aussi dire que, nécessité faisant loi, pour des petites structures, parce que le secrétariat de l'IMO, c'est à l'heure actuelle 3 personnes, c'est pas une très grande structure. Pour des petites structures qui sont en flux tendu sur un nombre de missions assez varié, un soutien public, bon, il y a un moment qu'on finance, il y a certains pouvoirs publics dans les États membres de notre réseau qu'on finance, mais in fine, le soutien de l'Union européenne est essentiel pour
aucun budget. Ça fait partie des règles du jeu, vous avez une certaine liberté de parole. Votre contribution en témoigne.
Tout à fait.
Je crois qu'on a à peu près compris Ulysse, j'ai à peu près compris IMO, qui a l'air quand même d'une équation coriace. Alors par contre, IETM, comment vous intervenez, avec quoi, pourquoi il y a 550 membres? By the way, j'ai retrouvé ma petite fiche, j'avais bien marqué 800, donc, à moins que je l'ai totalement inventé, il va bien y avoir un communiqué de presse, peut-être que bon. Peu importe, c'était en base 7. Dites-nous, Michel, comment vous intervenez?
Bon, tout d'abord, il faut savoir que IETM a existé pendant 9 ans sans aucune structure, sans aucun secrétariat, complètement informellement, c'est-à-dire que c'était vraiment sur la base du volontariat. Et je crois que cette période-là est essentielle dans la fête de la durabilité du réseau. C'est-à-dire que les valeurs qui ont été défendues à ce moment-là sont toujours les mêmes, qui sont des valeurs de curiosité tout d'abord, de solidarité, de responsabilité et d'entente cordiale, j'allais dire, et puis de découverte. Les personnes qui participent considèrent que c'est un petit peu comme si c'était prendre une... Aujourd'hui, maintenant, depuis après 9 ans, il y a eu une mise en place d'un dossier qui est assez faible.
On finance.
Donc, qui finance une grande partie des frais de l'IETM, qui concerne, c'est un petit peu comme IMO, on est 5 personnes dans le secrétariat aujourd'hui, ce qui est le maximum qu'on ait jamais été dans cette structure. Plus de 80% vient de nos recettes propres, donc de financement des membres. Et les recettes qu'on peut avoir quand on organise des meetings.
Alors, les périmètres d'intervention. C'est de l'expertise.
Alors, il y a plusieurs choses. Il y a tout d'abord les rencontres, et ça, c'est le cœur business de notre activité. Donc, ce sont des réunions que nous organisons, des réunions plénières une fois par an, comme je disais, un assez long, on monte à 800. Ou des toutes petites réunions, comme je rentre de Beyrouth, où la semaine dernière on a fait une petite découverte, on était Q8, mais ça a autant d'impact qu'une grande réunion, dans le sens où ensuite on transmet les informations qu'on a collectées, on va inciter les autres membres à aller voir ce qui se passe en Moyen-Orient. Donc, quels sont nos secteurs d'activité, enfin notre marge d'activité? On a changé de nom il y a quelques années, on s'appelle plus seulement l'Européen. Donc IETM, on ne décline plus, sinon pour dire Invest Energy, Time and Money.
Large pour lui.
Mais c'est-à-dire que c'est un petit peu comme...
Non mais c'est
un petit peu comme... certains membres expliquent souvent que, en fait, c'est un peu comme prendre un abonnement à la gym. Si on prend son abonnement et qu'on ne participe pas et qu'on ne fait pas des efforts, ça ne sert à rien, c'est plus de l'argent. Donc c'est un petit peu la même chose, c'est ce que les membres apportent au réseau, c'est ça qu'ils vont retirer. Donc c'est vraiment...
Certains rament beaucoup.
Oui et non, parce qu'en fait, la chose essentielle que ce qu'ils retirent de ces rencontres, le fait d'être dans ce réseau, en fait, parce qu'on a fait des études, et ça c'est la chose essentielle qu'ils en retirent, c'est l'inspiration. Quand ils sortent d'un meeting IETM, ils n'ont rien vendu, rien acheté, mais ils rentrent à la maison, comme si c'était un peu des vacances, entre guillemets. Ils sont inspirés. Donc l'inspiration vient de ces rencontres-là. Donc ça, c'est la première de nos activités, c'est bien évidemment nos rencontres, cette façon, le networking, comment on travaille en réseau, comment on apprend à se connaître, qui au final est assez économique. On en parlait il y a quelques instants en disant que c'est plus facile de se retrouver tous dans une ville plutôt que de passer son temps dans les aéroports ou dans les gares. On se donne un rendez-vous précis, un point précis. Donc pour nous, ça consiste en des villes principalement européennes économiquement. On a également des activités, on en a fait au Canada, en Chine, au Japon, en Asie centrale et dans toute la Méditerranée. Donc la première chose, c'est les rencontres. La deuxième, c'est également un pôle d'expertise. On a participé à plusieurs publications, enfin on a initié ou participé à des publications ou à la création d'un site internet dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle OnTheMove, qui est un site dédié à la mobilité artistique. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille vivement. OnTheMove.org, on-the-move.org. Et inscrivez-vous sur la newsletter, et depuis quelques temps, ils ont réussi à trouver des financements pour une newsletter en français, en espagnol, en anglais, et en je ne sais plus quel nom. C'est également une initiative de thème qui est maintenant, encore une fois, un petit bébé indépendant. On a fait plusieurs publications qui nous ont servi, entre autres, et ça c'est la troisième des activités, et je rejoins pas mal Guillermo également, tout le travail d'advocacy, de plaidoyer que l'on mène, soit au sein d'un autre réseau de réseaux qui s'appelle Culture Action Europe, oui c'est ça, en français il paraît, je crois, Action Culture Action Europe, qui avait pour mission, enfin qui a toujours pour mission d'ailleurs, de réunir des acteurs au niveau européen pour amener un discours du secteur culturel dans la discussion européenne. Et ce dont on parle à l'instant, c'est cela. Donc on participe d'une part à ce travail de plaidoyer au sein d'autres réseaux, mais également directement, notamment par nos publications, et je pense notamment à l'une d'entre elles que nous avons fait il y a quelques années de cela, qui était sur la mobilité, et de lister un petit peu toutes les obstacles à la mobilité des artistes en Europe. C'était en 2006, c'était l'année de la mobilité des travailleurs en Europe. Donc on a, grâce à cette petite publication, ça nous a servi comme une espèce de carte de visite qui a été utilisée aussi bien au niveau européen que dans les États membres pour faciliter, alors il y a encore beaucoup de travail, mais quand même, en tous les cas, une prise de conscience des problèmes des visas, des droits de travail, tout ce qui est les droits d'auteur et tout ce qui est taxes sociales. Comment on harmonise ça au niveau européen et comment on peut faciliter les échanges internationaux au niveau européen.
Et quelles sont les procédures? C'est un membre qui soumet ça à une assemblée générale, et puis ensuite l'assemblée générale décide que le secrétariat s'en empare, parce que là, quand on commence à faire du think tanking, c'est aussi
d'autant plus
la monnaie.
Oui, exactement. D'autant plus qu'il faut savoir que l'IETM, le vote n'existe pas, tout se fait par consensus.
C'est-à-dire qu'il y a un droit de veto du moindre.
Il y a un droit de veto, c'est un maigre mot, mais en tous les cas, c'est une majorité qui est d'accord. On y va.
Pas dans tous les partis politiques français, mais globalement, oui, c'est vrai. Non, mais dites-moi un peu les procédures, enfin, comment ça se passe.
Alors, il y a une gouvernance au sein du réseau. Il y a un conseil d'administration qui est élu, entre guillemets, c'est-à-dire il y a des gens dans la salle qui disent « Ok, je viens être membre du conseil d'administration à titre bénévole et je vais en plus payer mes voyages et mes hôtels pour aller aux réunions. » Il faut vraiment le vouloir.
C'est plus d'inspiration.
Voilà. Sachant qu'il faut encore, je l'ai pas mentionné au début, mais il faut savoir que c'est un réseau ouvert, parce que si aujourd'hui vous voulez devenir membre, je ne suis pas là pour la promotion, mais si vous, l'un d'entre vous, voulez devenir membre, enfin, comme Laurence par exemple, il suffit simplement d'écrire un petit email, voilà, je suis membre et ça m'intéresse, en fait, j'ai envie d'êtres membres et ça m'intéresse de participer aux échanges internationaux. Donc il n'y a pas nécessairement de confrontation, il n'y a pas de choix. Donc, c'est pour ça qu'on est aussi divers et variés, avec une très très grande diversité de structures, des grandes, des petites. Et voilà, donc juste pour terminer rapidement sur la gouvernance, il y a un conseil d'administration qui est composé de membres et qui est élu pour 3 ans, renouvelable une fois, et il y a des consultations avec les membres lors des assemblées générales, dans chaque meeting, dès que possible, on écoute, on pose d'autres questions, on essaie de comprendre un petit peu quels sont les désidérateurs des membres, vers quelle discussion il est aujourd'hui urgent de se pencher, est-ce qu'il y a des secteurs, des points géographiques où il faut explorer, qu'est-ce que ça veut dire ne pas être seulement européen, est-ce qu'on met un focus plus spécifiquement sur ceci ou sur cela. Et bien évidemment, le secrétariat est là pour collecter toutes ces informations, transformer ça dans un plan d'action, et le faire adopter par l'Assemblée générale, et ensuite...
Initié, j'imagine, également.
Oui, bien sûr.
Et l'interface de sensibilisation sont plutôt tournées vers les mêmes politiques ou également les mêmes professionnels? Est-ce qu'il vous arrive de travailler directement avec les programmateurs, les institutions qui sont...
Nos membres, ce sont...
En grande partie, des
programmateurs. Nos membres, ce sont des programmateurs, des producteurs, des artistes, un peu moins, je veux l'avouer, parce que certains... Enfin, il y en a quelques-uns, mais c'est difficile, en tant qu'artiste, d'entendre parler de son « produit », entre guillemets. Je peux comprendre que certains artistes se sentent un petit peu perdus dans ce mélange de choses assez pratiques qui ne sont pas nécessairement toujours très artistiques. Même si l'on mentionne, même si l'on a toujours, juste pour vous donner une petite idée, nos réunions plénières, donc quand on a entre 400 et 700 personnes, c'est divisé en 20 ou 35 groupes de travail, comme maintenant, plutôt en rond d'ailleurs, où on essaie de faire participer tout le monde et de faire émerger une intelligence collective. Juste pour dire que... voilà, donc c'est surtout ce sont des programmateurs, des producteurs ou des gens qui sont décisionnaires au niveau politique. On a... Il y a une horizontalité de pouvoir, au sein de l'IETM. Chaque membre, que l'on soit d'un grand festival d'Avignon, par exemple, qui est membre, il a la même voix qu'une petite compagnie au fin fond de la Roumanie. C'est exactement la même chose. Y compris les institutions dont je vous parlais plus tôt, que l'on appelle nos membres associés, qui sont donc les institutions qui eux-mêmes donnent des subventions. Et participent à la création d'une politique, soit dans un pays, soit au niveau régional ou international, comme ça peut être le cas de l'Union européenne.
Les arts représentés?
Ah oui.
Tous les arts du spectacle?
Tous les arts du spectacle, c'est un grand mot. On va dire, en résumé, et pour un petit peu refermer ça, c'est plutôt le théâtre et la danse contemporaine. Je peux vous dire que le théâtre et la danse contemporaine inclut également la musique contemporaine, dans un certain sens. Moi, j'ai oublié ton nom avec qui je parlais tout à l'heure, qui participe.
Raoul Lay, de l'ensemble de Télémac.
Voilà, qui est compositeur pour telle ou telle compagnie de théâtre, de danse, de cirque. Ça, ce sont des choses qui existent. La diversité esthétique est aussi large que la diversité d'origine et de capacité. Donc, parce que j'ai parlé également ce midi avec quelqu'un, ça veut dire quoi contemporain? Ça veut dire quoi les arts contemporains, les arts classiques contemporains, quand on est en France, en Belgique, ou en Roumanie, au Japon, ou au Brésil? Donc, il faut relativiser à chaque fois et laisser la place ouverte à une inspiration qui est, je pense, la chose dont les participants retirent le plus de ces rencontres.
J'aimerais qu'on fasse ensemble maintenant, sans forcément avoir un tour de table toujours unidirectionnel, un peu de prospective exploratoire. Comment dire, j'aimerais vous soumettre juste une toute petite analyse. On a l'impression que le passage d'un monde assez où l'artiste avait autorité, où les publics suivaient l'offre, où la puissance publique accompagnait avec un investissement bon an, mal an, à peu près en progression constante de la création, que ce monde centralisé est en train de disparaître, qu'on s'oriente vers un monde beaucoup plus cellularisé, décentralisé, horizontal, où la notion de réseau immatériel, en tout cas, est centrale, de participation d'un réseau immatériel est centrale pour faire connaître les œuvres, pour permettre leur diffusion, et dans laquelle finalement, à la fois l'impact de l'assèchement progressif de la puissance publique ou de son investissement pour la création, le raidissement, on va dire, de la capacité à financer ces productions par la billetterie, de par le contexte économique relativement défavorable en Europe, voire très défavorable dans une partie du sud de l'Europe, finalement vous challenge, c'est-à-dire que la notion de réseau en dur, qui n'est que une version de la capacité qu'ont les humains à se mettre ensemble, à participer dans une espèce d'ouverture, de tolérance, un échange d'expériences, devient crucial. Alors, est-ce que vous avez l'impression, vous aussi, que vos tutelles, vos financeurs, en grande partie d'ailleurs les membres eux-mêmes, dans une forme d'autogestion en quelque sorte, vous font sentir aussi cette urgence, et que lorsqu'ils se tournent vers leurs propres sources de financement habituelles, traditionnelles, donc État, collectivités territoriales, quel que soit leur nom qu'on leur donne dans différents pays d'Europe, ou vers les possibilités de se tourner vers le public et des sources de soit de billetterie traditionnelle, soit de, pour être très moderne, de crowdsourcing, etc., se tarissant, finalement, sont dans une contrainte de faire appel à la mutualisation des moyens, à la mutualisation des idées, au péril peut-être, et je terminerai par là, de leur indépendance artistique, qui était quand même l'objet même de la création d'une personnalité morale, que ce soit un ensemble de musique contemporaine, ou la direction d'un théâtre, ou quel que soit le nom qu'on peut leur donner. Alors, est-ce que vous sentez aussi cette urgence? Est-ce que votre métier devient de plus en plus difficile, quelque part, dans les différents secrétariats? J'adore ce terme, d'ailleurs, qui est très belge, et qui a une certaine humilité en soi. C'est tout anglo-saxon traduit, c'est ça?
Toute proportion gardée, mais vraiment toute proportion gardée, parce que on parle du secrétariat de l'ONU, par exemple.
C'est vrai, c'est vrai. Enfin, en France, on est tout de suite délégué général, par exemple. Bref, on est secrétaire adjoint de l'ONU, puis on devient après président directeur général d'une société civile. Alors, pour citer ça, c'était un hommage. Voilà, donc est-ce que vous sentez aussi cette urgence? Est-ce que les temps, quand je parlais de prospective exploratoire, est-ce que vous intégrez un peu cette notion de scénario, voire de. Je parlais aussi de crispation, de raidissement, dans votre quotidien, et quelles sont, alors, quelles sont les parades que vous envisagez pour multiplier? Après-midi, on a encore la preuve avec l'importance qui se sont posées, qu'on réussisse à protéger ce qu'on appelle communément les marges artistiques, dans les deux sens du terme, c'est-à-dire l'autonomie artistique et puis la capacité de financer. Et juste une petite alinéa, vous parliez du droit d'auteur, etc., la capacité d'inciter aussi l'humain à produire de l'art, à pratiquer l'art, etc., semble préservé jusqu'à présent, sauf qu'on voit que certains aspects très importants, CF, copie privée, etc., sont également un peu mis en danger. Alors, qui veut prendre?
Très bien. Très bien. Non, c'est sûr que le secteur de la musique, dans le monde occidental, on va dire, en général, personne ne l'ignore ici, je pense, vit non seulement une crise d'identité sur son modèle de développement, et subit en plus de plein fouet la crise économique. Ça se ressent à tous les échelons. Nos membres, à nous, nous le font sentir parce que l'industrie musicale ou le secteur musical dans leur pays subit la crise liée au téléchargement, à la piraterie, etc. Et en plus, eux, leur structure, leurs organisations subissent les tarissements de financement public par leur ministère de la Culture ou leur ministère des Affaires étrangères ou leur structure de financement public.
Ou les
trois. Ouais. Donc, c'est une période qui est dure sur le plan des revenus. Et je pense que c'est macro. Et c'est là, pour le coup, je pense que c'est commun à toutes les sous-catégories du secteur de la musique, en tout cas en Europe. Donc oui, ça c'est quelque chose dont on parle énormément et qui a des conséquences sur le fonctionnement à la fois des organisations membres de notre réseau et sur votre réseau, in fine, également.
Quelles sont les stratégies pour tirer tout ça vers le haut?
Quand on discute de l'avenir de ce réseau avec nos membres, la chose qui revient le plus souvent, c'est de dire, bon, compte tenu des réalités économiques et financières en Europe aujourd'hui, compte tenu de la crise d'identité d'une industrie depuis une dizaine d'années, la seule façon qu'on va avoir de s'en sortir est de maintenir un niveau de création et d'amplifier ce niveau de création si possible dans le futur, c'est de se rassembler pour faire un bloc, d'avoir un vrai marché ou alors une zone en tout cas européenne. Je dis marché parce que c'est pas seulement le marché d'échange économique, c'est un marché sous toutes ses formes. Mais c'est vrai que ça, c'est la priorité. Aller vite et très vite vers la constitution d'un bloc uni, ce qui n'a jamais été le cas en Europe. Et voilà, on parlait des clashs entre bureaux export, etc. C'est le cas. Nous, notre mission, c'est d'accélérer ce processus. C'est de faire en sorte que non seulement à l'échelle européenne, à l'échelle des pouvoirs publics de l'Union européenne, il y a une prise de conscience qu'il faut absolument accélérer la mise en place de normes, la mise en place de mesures, la mise en place de mécanismes incitatifs pour faire en sorte que ce marché se développe, et aussi accélérer son raisonnement, alors quel que soit son raisonnement, hein, mais accélérer sa prise de conscience que comme quasiment tous les secteurs culturels et créatifs en Europe, il y a un problème énorme d'identité. Alors, lié à l'émergence des nouvelles technologies en général, pour rester très, très vague, mais particulièrement dans la musique, lié à la piraterie. L'Union européenne a encore du retard, et bon, c'est la même chose aux États-Unis, c'est la même chose dans les grandes zones économique développée, mais a du retard sur sa grille d'analyse, sa grille de lecture. Qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher que les œuvres se retrouvent gratuitement sur Internet sans que les artistes soient rémunérés?
La neutralisation du droit d'auteur, de l'incitation.
Oui, ou alors, je ne sais pas, moi je ne suis pas là pour juger de l'opportunité aujourd'hui de parler de... Alors, est-ce qu'il faut défendre le droit d'auteur ou est-ce qu'il faut changer de modèle? Ça, c'est pas la question. Notre organisation a son point de vue là-dessus, mais on n'est pas là pour parler de ça. La question, c'est de savoir si les pouvoirs publics européens doivent se saisir de ce débat. Alors, si demain, l'Union européenne nous met dans les tuyaux la licence globale et la défend avec toute sa ferveur, ce sera une situation objective, mais au moins, elle se sera saisie de cette question. Le problème, c'est qu'elle ne s'est pas encore pleinement saisie de cette question.
Elle est paralysée. Voilà, on a fait une langue de bois. Non, l'Union européenne, c'est pas un tout en soi au niveau de la volonté politique.
Ah, oui.
Et a fortiori sur ces sujets.
Ah oui, tout à fait. Bon, là, on...
Votre silence vaut de longs discours.
Non, mais ce serait un long débat sur la structure politique de l'Union européenne. Alors, doit-on aller plus loin dans l'intégration politique? Je pense.
Anne, est-ce que la création d'Ulysse, qui a l'air véritablement d'aller dans le sens dont vous avez parlé, qui est vraiment de, pas d'uniformiser, mais enfin de trouver, malgré les différences nationales, etc., un terrain d'entente pour multiplier et créer des nouvelles habitudes, comme on disait, d'échanges, est-ce que là, actuellement, le réseau Animois est un peu tout nouveau, tout beau, mais est-ce que quelque part, sa création, le fait qu'il ait été créé en 2012, n'est pas aussi la réponse à ce qu'on disait, c'est-à-dire la prise de conscience, pour reprendre vos termes, de la part des participants, qu'il fallait agir en commun pour limiter la casse ou rebondir. Est-ce que tu l'as senti comme ça lors de vos premiers échanges, parce que tu as été intégré, tu es parti de l'IACAM dans l'étude du millénaire, et tu as été intégré dès les toutes premières discussions. Est-ce que ça a été un incitateur fort?
Certes, surtout que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ISC est quand même un réseau de soutien au projet. Donc en fait, c'est une vraie aide financière aux différents projets qui sont réalisés.
C'est une solution, un problème.
Voilà, c'est d'autant plus qu'en fait, les 14 membres du réseau ULIS ne payent aucune participation annuelle ou aucun abonnement en fait, pour être partenaire. C'est-à-dire différence d'impôt, c'est quand même que l'Union européenne ne finance jamais l'intégralité des frais de projet, donc il y a toujours un apport propre, mais il y a aussi une aide sur les différentes dépenses qu'on peut avoir, donc à partir du moment où on travaille en réseau et au-delà des frontières nationales. Donc c'est voilà, certainement une incitation financière au départ, mais là où le réseau Varese n'est peut-être pas notre seul modèle et où je suis voilà, aussi... où IETM pourrait être beaucoup plus aussi un autre modèle, c'est aussi cette notion du réseau ouvert, que je trouve intéressant, parce qu'aussi UIS, au-delà des 14 membres qui en profitent directement d'un soutien financier pour opérer pour réaliser des projets, on a quand même bien sûr chacun notre propre réseau local, ou même aussi international, de partenaires dans le milieu artistique, voilà, que ce soit des ensembles, des lieux de diffusion, des festivals, etc., qui nous programment, des sociétés de droits d'auteur, donc des financeurs publics ou privés. En fait, on met aussi en commun ces réseaux-là, donc ça crée des rencontres. Et en fait, l'idée, c'est qu'à la fin, il y a une dynamique qui se crée, qui dépasse totalement ces 14 membres et ce soutien direct de l'Union européenne, mais des rencontres, des nouvelles dynamiques, etc. Par exemple, aujourd'hui, je peux discuter avec un des membres italiens qui me dit « Oui, mais alors... C'est qui les nouveaux ensembles qui se créent en France? Est-ce qu'on ne pourrait pas travailler avec eux aussi en Italie? Parce que peut-être les ensembles qui sont chez nous, ils sont trop chers, ou voilà, ils ne correspondent pas aux esthétiques qu'on recherche, etc. » Donc il y a aussi voilà, des nouveaux réseaux comme ça qui se créent. Et bon, aujourd'hui, nous, on n'est pas du tout un réseau de lobbying. Je veux dire, c'est plutôt un réseau vraiment artistique. Mais on espère que justement, en élargissant les activités, en créant des liens entre les différents acteurs qui nous entourent, nous, les 14 membres directs du réseau, on espère bien sûr créer une sorte une plateforme d'échange et du coup aussi une force plus grande pour faire pression, pour montrer qu'il y a des aides qui sont nécessaires pour continuer à vivre.
Et par capillarité, parce que vous arrivez, on peut dire, après Erasme, après l'MLT Erasme, il y a Ulysse pour un jeune compositeur. Donc vous accompagnez les gens, les artistes, jusqu'à 35-40 ans, finalement. Donc une fois que ça fait 25 ans qu'ils sont habitués à certaines pratiques d'échange, de tolérance, à une certaine habitude, on va dire, d'une unité territoriale, on peut imaginer en effet que lorsqu'il se retrouve directeur artistique d'un ensemble, il soit un peu surpris que... le droit social ne soit pas uniformisé, qu'il y ait une concurrence fiscale, enfin tout ce qu'on connaît bien en Europe, et que ça puisse être un moyen de pression formidable. Est-ce que vous sentez qu'entre 1981, bien entendu, mais enfin depuis les années 2000, il y a, comme je disais, un certain raidissement, une de plus en plus, en tout cas dans les relations, et une urgence, des enjeux plus forts. Et comment, collégialement, dans le cadre de l'association IETM, vous préparez à ça, vous souhaitez vous confronter à ça?
Moi, je pense que depuis le début, je vous ai parlé des valeurs qui sont, à mon sens, et je crois au sens des membres, le plus important, avant même quelle question de financement ou de quoi que ce soit. Et une des valeurs qui est également importante, c'est la solidarité. Il est arrivé déjà dans le passé, bien avant l'arrivée de cette fameuse crise dont on ne cesse de nous fasciner, des membres ou des acteurs culturels qui, dans leur propre pays, se sont trouvés en problème, principalement pour des questions politiques liées bien évidemment à l'argent. Et il y a eu une solidarité qui a été mise en place entre les membres. On se sent toujours beaucoup plus fort quand on est soi-même connecté avec d'autres, de l'étranger ou d'ailleurs. On a avec ses pairs. Et quand il est arrivé que pour une raison qui n'était pas justifiée ou justifiable, certains acteurs ont été maltraités, j'entends bien évidemment la plupart du temps financièrement, ou en termes de censure, je pourrais avoir plusieurs exemples à ce niveau-là, de recevoir un soutien de l'étranger a été quelque chose qui a été très très important et qui reste important. Quand on voit ce qui se passe par exemple en Hongrie aujourd'hui, quand on voit la situation de ce pays nazi, pardon, fasciste, on a une responsabilité par rapport à ça, on a une solidarité à montrer. Donc, et j'en arrive maintenant, quand on parle, en effet, bien évidemment qu'il y a des situations économiques qui sont compliquées, qui sont de plus en plus difficiles, Je pense, je suis vraiment persuadé que cette mutualisation, cette mise en commun de notre intelligence collective peut apporter des solutions à cela. À voir comment. Après, je retiens également une autre question qu'il posait, c'était sur est-ce que l'on garde l'intégrité artistique? Comment on peut faire pour travailler avec d'autres tout en gardant son...
la vertébrale,
exactement.
C'est ce qu'on est, son authenticité.
À mon sens, mais je peux me tromper, à mon sens, s'enrichir d'expériences diverses et variées ne peut que renforcer cette colonne vertébrale. Mais c'est mon humble point de vue. Je pense qu'un artiste pourra répondre différemment, mais il me semble que c'est au contraire ces échanges-là qui renforcent cette fameuse colonne vertébrale. Donc, oui, bien évidemment, on est confronté à cette fameuse crise. Ce que je vois aujourd'hui, c'est que on a commencé à parler, à sentir cette crise économique avec nos membres. On a juste regardé d'où venait le vent, et il venait d'abord de l'Amérique du Nord. Et on a vu plusieurs membres qui nous disaient « Désolé, je ne peux plus être membre, je suis triste, je suis désolé, mais voilà, coupure de subvention. » Et on a perdu beaucoup de membres comme ça, au Canada, aux États-Unis. Ils sont revenus, maintenant ils commencent à revenir. Et on sent la même chose maintenant en Europe, puisque je pense notamment aux Pays-Bas. Peut-être vous devez savoir qu'il y a eu des coupures assez drastiques dans les budgets culturels. Il va y avoir la même chose ici en Belgique, surtout pour la communauté française. Et comment on fait? Donc voilà, ces gens s'en vont, ne peuvent plus avoir d'échanges internationaux. Enfin, c'est pourquoi nous, on travaille en tous les cas. Donc pour eux, c'est bien difficile. Mais en même temps, en parallèle, je vois beaucoup de membres, enfin beaucoup de nouveaux venus qui sentant justement la situation politique et économique se dégrader, commencent à venir. Et je ne vous citerai que par exemple les Grecs qui viennent en force dans les réseaux internationaux parce qu'ils se disent voilà, il n'y a pas de solution, c'est là où il faut aller. On ne peut plus travailler tout seul dans notre coin, il faut mutualiser notre, je répète toujours ce mot-là que j'aime bien, c'est notre intelligence collective, il faut la mettre ensemble. Et c'est ça qui va nous faire trouver des solutions qui sont dans une situation qui est, oui, où la précarité se développe à grands pas. Il faut se mettre ensemble. Donc je répète exactement ce qu'il fait bien, c'est ça qui est fort.
Pourquoi tu laisses débat, en tout cas ici, sur cette scène, avant de discuter avec la salle? Est-ce que, j'aimerais vous poser une question un petit peu naïve, est-ce qu'il y a dans vos relations informelles avec des artistes, leurs représentants, est-ce qu'il y a des pratiques, des tours de main, des expériences heureuses, fertiles, que vous aimez bien citer? Est-ce qu'il y a aujourd'hui en Europe des territoires qui sont plus propices à accueillir la création, à être ouverts sur le monde, des programmateurs qui peuvent se permettre de faire 80% de programmation venant de territoires étrangers à leur ville, à leur région, à leur pays? Est-ce qu'il y a des publics qui sont particulièrement comblés? Enfin, pour terminer sur une note un petit peu optimiste, par exemple, vu de France, et quand on parle de la musique de création, vous avez cité les Finlandais, les Norvégiens, on pourrait citer aussi les Flandres, on a l'impression qu'on a plus de chance, parce qu'on est un chef d'orchestre, compositeur de talent et d'envergure, de réussir à monter un ensemble à Anvers, à Bergen, ou peut-être à Helsinki, ou à Copenhague, que dans le nord de l'Angleterre, où il n'y a qu'un seul festival qui fait tout ce qu'il peut, mais bon. Est-ce que vous avez des choses comme ça que, informellement, parfois, vous transmettez et vous donnez comme ça des pistes qui peuvent servir un peu de modèle abstrait à des réussites artistiques humaines?
Du point de vue, de notre point de vue, c'est vrai qu'il y a certains pays du nord de l'Europe qui continuent à très bien fonctionner maintenant. C'est un peu lié aussi au fait que ce soit des pays qui ont encore des taux de croissance raisonnables et qui peuvent avoir les moyens de continuer à financer de manière soutenue leurs activités culturelles. Je pense par exemple, tu mentionnais l'exemple des Pays-Bas en disant que c'était des coupures, c'est même pas des coupures, c'est une véritable boucherie, c'est ça, ces Pays-Bas. Alors que
moins 40.
Ouais, c'est ça. Et,
Alors, il y a des institutions, juste pour donner une idée, il y a des institutions comme la REC Academy qui existe depuis 150 ans, qui disparaît au 1er janvier prochain. Voilà. Juste pour donner une idée, c'est un truc, l'Académie des arts des Pays-Bas, paf, hop.
Exactement.
Ça, reconstruire, c'est totalement impossible. C'est un aveuglement colossal de la classe politique.
Et c'est, ouais, c'est vraiment...
On ne peut rien faire. Enfin, l'Union européenne ne peut pas nationaliser sur le plan européen cette institution.
Non,
j'ai demandé que la radio néerlandaise, à un moment, qui fait un travail véritablement d'externalité positive extraordinaire, il y a un centre international. Il n'y a pas un moyen que ça soit nationalisé par l'Europe, quelque part. Puisqu'il est anormal que.
Patrimoine européen, oui.
La France en profite.
Comme le fait profite.
Tout le monde en profite.
Oui, mais la marge de manœuvre est limitée par la volonté politique des Pays-Bas. L'Union européenne, c'est au bout du compte, sur toute démarche qu'ils font politiquement, c'est un vote des États membres. Si les Pays-Bas refusent de laisser partir cette marque-là, même s'ils ont arrêté de la financer et qu'ils sont en train de la laisser mourir, bon, on ne peut rien faire sans l'accord des Pays-Bas. Après, il y a des exemples un peu plus heureux. Moi, je pense par exemple au Danemark qui marche vraiment très, très bien. Nous, on a expérimenté pas mal de belles choses là-bas ces dernières années, parce que bon, après, le Danemark, il faut garder toute proportion gardée, parce que c'est un petit pays qui est très sain financièrement, qui bénéficie de croissance et d'un système de financement
dont le ministre de la Culture a démissionné hier.
Ouais, c'est vrai.
C'est triste. C'est pour une fois, pour des raisons
d'arbitrage négatif.
Non, si je peux le permettre, c'est vraiment une connerie de tabloïd. C'est juste par la presse, pression de la presse.
Et c'est
très très dommage. Excuse-moi, c'est juste pour dire que c'est très dommage, parce que pour une fois, c'était un homme politique qui venait du secteur. C'était l'un d'entre vous. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, pendant des années et des années, a dirigé des théâtres, a accompagné des compagnies, a fait des choses sur le terrain. Vraiment, c'est pas un professionnel entre guillemets de la politique. Il est arrivé à ce poste-là parce que c'est quelqu'un de brillant. J'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois et bref, je suis un peu choqué.
Qui s'exprimait peut-être.
Oui, juste pour des histoires d'homophobie, des trucs, je ne sais pas des détails.
Ouais, et c'est d'autant plus tragique que ça représente bien cette mentalité qu'ils avaient mis en place depuis quelques années au Danemark, qui est vraiment de faire confiance à des gens qui connaissent le terrain, à des gens qui ont des solutions, pas seulement pas seulement faire confiance en effet à des professionnels de la politique. Et ça, ils le faisaient à tous les échelons, et il y a toujours, au Danemark, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui innovent, qui prennent beaucoup de risques. Bon, alors évidemment, il y a toujours un petit filet de sécurité par rapport à des pays comme la Grèce ou la France, enfin, sans vouloir faire des comparaisons hâtives, mais il y a vraiment cette mentalité de prendre des risques, alors à tous les étages de la création et sur tous les sous-secteurs de la musique. On pense par exemple à l'initiative du forum danois des compositeurs, qui était Green Music, qui est ensuite devenu New Music for New Audiences, qui est un projet pour le alors je ne sais pas si c'est une traduction en français, Audience Development, pour
le développement du galapétrie.
Non, mais c'est plutôt les nouvelles pratiques pour les publics, les nouvelles façons d'intégrer les publics dans les œuvres de musique scientifique, exactement. Et donc, que ce soit dans ces secteurs-là ou plutôt les secteurs pop amplifiés, il y a des initiatives qui vont dans tous les sens, il y en a plein, et c'est vraiment un pays sur lequel il faut garder l'œil, parce qu'ils ont, la clé, ils ont quelque chose de... Ils ont une motivation, malgré les défis, malgré la crise, malgré les perspectives assez sombres un peu partout. C'est un pays qui a jamais baissé les bras.
Et l'ouverture marche, puisque je crois savoir que le nouveau directeur de Copenhague vient de Danemark. On a un chef français qui ne peut pas citer qui est directeur musical du premier ensemble musical contemporain au Danemark, et qui est une floraison de compositeurs danois les plus âgés, de Per Mørkøre, Hans Abrahamsen, en passant par beaucoup d'autres. Les jeunes qui sont très très présents dans les festivals des grands pays européens. Donc l'ouverture, ça se paye aussi pour les autochtones.
Oui, excuse-moi, juste un petit détail, une petite anecdote qui me paraît aussi un peu, je sais pas quoi, c'est donner un petit peu de créativité dans Malgré cette tristesse qui se passe en Espagne, c'est pas brillant non plus. Il y a des coupures drastiques dans les budgets culturels. Et il y a eu notamment en plus une augmentation de la TVA qui était sur la billetterie des spectacles.
De 15 points.
Qui était de 8 à 20, qui est passé de 8 à 21%. Donc j'ai appris hier encore qu'il y a un théâtre qui maintenant vend des carottes. Et accessoirement, il y a un spectacle avec des carottes. Mais pourquoi la carotte? Parce que les carottes, elles n'étaient payées qu'à 4%. Donc les gens payent le ticket.
Parfois, il y a des navets. Ils payent leur navets.
Voilà, ils payent leur carotte 13 euros.
Si, pour ça, les ceux qui rient.
Et ça, c'est triste. En même temps, c'est pas mal. Voilà, ils payent leur carotte 13 euros et ça permet en plus à la carotte d'aller voir un spectacle.
Il y a un autre exemple, moi, qui me touche parce qu'on travaille beaucoup avec eux ces deux dernières années et c'est aussi un exemple de ne voilà, pas baisser les bras et de garder la tête haute. On travaille beaucoup avec les sociétés de collecte et de gestion de droits d'auteur au Portugal ces deux dernières années parce que ça fait 5 ou 10 ans qu'ils ont en tête de créer un bureau export de musique là-bas. Conditions politiques de l'implication de l'État n'ont pas été réunies ces 5 dernières années. Elles ont été réunies une seule fois juste avant la très grave crise économique, financière et sociale qui est en train de se passer là-bas. Et malgré tout ce qui se passe, alors il y a eu 3 ministres de la culture différents en 1 an et demi tout est contre eux. Les conditions politiques, les conditions financières, les conditions économiques, les conditions sociales, mais ils continuent à se battre, ils continuent à mettre des business plans sur le bureau des ministres successifs, ils continuent à insister et ils ont raison parce que quel que soit l'état des finances publiques, quel que soit l'état du moral du pays, quel que soit l'état de la classe politique au Portugal aujourd'hui, c'est un pays qui a un potentiel artistique quasi illimité. Bon, c'est pas le seul, hein. il y a d'autres pays européens, mais C'est pour une organisation comme la nôtre, c'est extrêmement positif, c'est un signal extrêmement positif de voir que dans des pays comme ça, qui sont touchés plus durement que d'autres par la crise économique et par la crise du secteur musical, les gens continuent à se battre, les gens continuent à penser qu'il y a de l'espoir. Donc c'est aussi quelque chose de très
positif. Pour terminer notre tour européen, depuis ce qui se passe en Grèce, il n'y a jamais eu autant de compagnies indépendantes, il n'y a jamais eu autant de créativité. Et les gens qui sont complètement débordés par toutes les manifestations qui se passent, comme on voit partout dans nos médias, nous disent bah, nous on est habitués à ça de toute façon. Et il y a une création foisonnante depuis la crise. Donc voilà, gardons l'espoir.
Comme on sait à peu près tous ici, la plus belle réussite sans doute de l'ensemble contemporain des dernières années vient de Porto, au Portugal, Remix. Il est 15h38, donc j'espère qu'on a le temps de prendre quelques questions, sachant qu'on va faire certainement quelque chose, et ensuite on va enchaîner sur la seconde table ronde. Dites-nous, on ne vous voit pas du tout en fait, sachez-le. J'ai mes lunettes, je croyais que j'allais vous voir, mais je ne vous vois pas non plus. Donc, alors, s'il y a des questions, s'il y a besoin d'un micro. Alors, et donc les brochures de IETM, de Ulysses Network, IMO, il y a un site internet. Voilà. Alors, je me tourne vers Laurence, s'il n'y a pas de questions. Pardon.
Je voulais savoir s'il était possible, que ce soit un secret d'État, d'avoir les membres, les 14 membres de l'association Ulysse.
Je suis dans la brochure.
Merci.
Non, voilà, donc Bruno, il y a des brochures pour toi. Et... On fait une petite pause, ou de toute façon, on se retrouve, et puis on se donne rendez-vous ici à 16h. 16h, alors vraiment 16h parce qu'il y a des artistes, Raoul Lay, voilà. Jean-Paul Messi, etc., qui nous accompagnaient, merci à eux, dans la soirée. Voilà. Donc on va essayer de respecter cet horaire pour qu'ils puissent après continuer à travailler sur le projet. Merci infiniment, Pierre-Fabien. Anne, merci beaucoup. Merci à vous.